Aujourd'hui, avec le père Henri Lefer.
Parlons à présent de la compassion de Notre-Dame. La compassion de la Vierge Marie dépasse, avec une sorte d'infinité, la coopération des saints à la rédemption du monde. En s'unissant aux souffrances de son Fils, Notre-Dame a coopéré au rachat, opéré par notre Seigneur dans un sens secondaire et dépendant comme tous les saints, mais à un degré dont nul autre ne peut approcher. Et ceci, indépendamment même de ses douleurs. La raison en est la plénitude de grâce en son âme, qui dépasse la grâce finale de tous les anges et de tous les saints réunis. D'autre part, Notre-Dame a coopéré avec notre Seigneur à la rédemption du monde dans un sens unique, dans la mesure où ce rachat n'aurait pas pu avoir lieu sans son fiat, sans son consentement donné au jour de l'Annonciation. Il fallait qu'elle accepte de mettre au monde le Fils de Dieu pour qu'il vienne nous sauver. Cela, on ne peut le dire d'aucun saint. Dans le plan de Dieu, le salut du monde devait passer par la maternité divine qui en serait le point de départ obligé. La coopération des saints au rachat des hommes, et la nôtre, ne sont que la continuation et l'application d'une rédemption déjà accomplie, tandis que la coopération de Notre-Dame fut une condition nécessaire à l'accomplissement de cette rédemption en vertu du plan divin. Tout cela s'entend indépendamment des douleurs de la Vierge Marie. Posons-nous maintenant la question. Qu'est-ce que ces douleurs dont nous avons parlé dans des précédents enregistrements, qu'est-ce que ces douleurs ont ajouté? Les douleurs de Notre-Dame n'étaient pas nécessaires à la rédemption du monde. Mais dans les conseils divins, la Sainte Trinité avait décidé de toute éternité que ces douleurs de Marie seraient inséparables de la passion de notre Seigneur, en seraient une partie intégrante. Expliquons-nous. Notre Seigneur, sur la croix, souffrit aussi de ce que sa mère souffrait et de ce qu'elle souffrait à cause de lui. Aussi, notre Seigneur, sur la croix, ne souffrit pas seulement de la torture du crucifiement et de la vision de tous les péchés de l'humanité, il souffrit aussi de la douleur de sa mère dont il était la cause. Et ce ne fut pas la moindre de ses souffrances, puisque Notre-Dame était l'être humain qu'il aimait le plus. Toute cette amertume immense que Jésus avait versée de lui-même en Marie, il la reversait en lui-même sans l'enlever de Marie. Cette amertume rentrait dans le cœur sacré de Jésus comme une autre passion, un autre monde d'affliction, un autre déluge de douleur. Ainsi la compassion de Marie sortait de la passion et y rentrait. L'offrande de Notre-Dame montait au ciel avec celle de Jésus. Ces deux offrandes étaient comme deux grains d'encens sur les charbons brûlants d'un même encensoir. Par suite de la simultanéité de la compassion de Marie avec la passion, par suite de ce qu'elle fut en elle-même une partie intégrante, il y entra le caractère de sacrifice et d'expiation qui appartenait à la passion. Et cela à un degré et d'une nature qui n'appartiennent pas aux afflictions des saints. Pour être complet, il nous faut ajouter ce que dit le père Thérien, serviteur de Jésus, du rôle respectif de l'intelligence et de la volonté dans la compassion de Notre-Dame. Le martyre de Notre-Dame au calvaire avait une double source, une double mesure, la connaissance des douleurs de son fils et son amour pour ce même fils. Ôter la connaissance, comment pourra-t-elle souffrir de douleurs qu'elle ignore? Donnez-lui la connaissance sans l'amour, il y aura peut-être quelque pitié. Mais pourquoi souffrirait-elle si cruellement des angoisses endurées par une victime qui lui serait indifférente? Tâchons d'en tirer une conclusion générale. Cette femme est puisée par la souffrance et la force de l'Église. On pourrait appeler la Vierge Marie Notre-Dame des tempêtes. La Vierge Marie est comme ces immenses chaînes de nos forêts que n'ébranlent pas les plus gros des orages. Dans les tempêtes de la vie, et il y en a dans chaque vie humaine, c'est auprès d'elle qu'il faut chercher abri et sécurité en empoignant notre chapelet. Groupons-nous auprès d'elle aussi, en notre temps, où l'Église revit la passion de notre Seigneur avec pour conséquence les ténèbres qui ont recouvert le monde, comme le Vendredi Saint sur le calvaire. Quand les hommes d'Église ne sont plus une lumière, l'obscurité recouvre la terre. C'est Notre-Dame qui nous fera persévérer dans la vraie foi et dans l'état de grâce jusqu'à ce que notre Seigneur fasse cesser l'épreuve, soit individuellement en nous rappelant à lui, à l'heure de notre mort, soit collectivement, en faisant cesser la crise dans l'Église à son heure, et lui seul pourra la faire cesser. Il nous faut tenir jusqu'au bout, comme Notre-Dame. Ne nous troublons pas non plus si nous ne sommes qu'un petit nombre aujourd'hui. Le Vendredi Saint, il y avait bien peu de monde au pied de la croix avec Notre-Dame. Ce fut toujours le soin principal et solennel des catholiques, dit le pape Léon XIII, de se réfugier sous l'égide de Marie et de s'en remettre à sa maternelle bonté dans les temps troublés et les circonstances périlleuses. De là, ses qualifications d'auxiliatrice, de bienfaitrice, de consolatrice des chrétiens, de reine des armées, de dispensatrice de la victoire et de la paix dont on l'a saluée. La voie nous est tracée, que Notre-Dame nous aide à y persévérer jusqu'à la mort. Ainsi soit-il.